Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Claudie Ravel a fondé la société Guayapi en 1990, avec pour vocation la valorisation des plantes nobles, atypiques de nos contrées, mais typiques et emblématiques pour les peuples vivant sur les terres d'origine. Celles-ci sont cultivées et importées selon des critères biologiques remarquables, tout en respectant la biodiversité locale, et selon les principes du commerce équitable. Claudie Ravel nous raconte son enfance, sa rencontre avec les Indiens Sateré-Maoué, sa découverte avec la plante, le Warana, et la création de Guayapi. Aujourd'hui, à travers ses actions, Claudie s'engage pour la diversité et le respect des peuples et de leurs terres.
Bonjour Alexandre. Donc je me présente, je suis Claudie Ravel. Donc j'ai été éduquée par mes parents dans un cadre familial avec le jardin, même si nous étions en banlieue parisienne, avec un jardin qui était totalement biodiversifié, avec des fruits, des légumes. Notre père nous a initiés à la terre, on aimait finalement cette odeur de la terre, planter des choses. On avait donc tous les légumes du jardin, on avait même un petit poulailler, etc. Donc une culture familiale pleine de racines. Ma mère, elle nous a éduqués, nous étions trois sœurs, avec une bibliothèque à la maison pleine de médecine du monde, des livres sur les médecines du monde. Et on a été soignés par la médecine chinoise. On anticipait sur la maladie, on n'allait pas voir le médecin parce qu'on était malade, on allait voir le médecin parce qu'on mettait on réglait la machine à nouveau. Donc après finalement à 18-20 ans on en a un peu ras-le-bol de prendre des produits, de manger parce que c'est bon pour ci, c'est bon pour ça. J'ai fait des études économiques, donc de gestion plus et juridique avec une formation, une spécialisation plus juridique et je m'occupais des licences internationales, des contrefaçons, ce qui m'a amené à voyager beaucoup mais également à titre personnel j'aimais le voyage, j'étais inscrite dans le voyage puisque mon père aussi nous a initiés à la différence avec l'autre. À 6 ans j'étais abonnée à un petit magazine qui s'appelait Le Tour du Monde et on collait en fait des petits décalcomanies là où il y avait le monsieur noir qui allait en Afrique, le monsieur jaune où il fallait deviner s'il était chinois ou japonais, c'était pas facile, etc. Donc la différence du monde, les autres, les peuples autochtones et finalement bon, on a un désir de voyage très fort. A priori mes parents au départ n'avaient pas l'argent pour nous faire voyager, mon père travaillait à la SNCF donc nous avons voyagé en France, en Europe facilement, mais dès qu'on a j'ai pu, je suis partie en Inde, au Mexique, etc., à titre personnel pour le tourisme. Et puis, pendant 12 ans, j'ai travaillé chez Daniel Echter. Ça a été un vrai bonheur. J'ai appris à travailler avec l'esprit qu'avait Monsieur Daniel Echter, très social, où finalement chacun prenait sa place là où il avait les compétences. Forte de ça, au bout de 12 ans, bon, quand j'étais enceinte, j'ai décidé de monter ma propre structure et revenir à mes amours premières, à mon enfance. Et donc, ayant voyagé, j'avais rencontré avec un ami qui s'appelle le docteur Bernard Toiti, la plante Guarana, qui était largement consommée au Brésil et je ne comprenais pas pourquoi elle n'était pas diffusée en Europe. Donc on a commencé à faire les recherches en 1987 sur cette plante. 3 ans d'études de faisabilité pour ensuite ouvrir la société Guayapi en 1990. Donc Guayapi est né de ce désir, de cette vocation de valoriser des produits issus de terres d'origine en tenant compte de 3 critères fondamentaux pour nous. Qu'ils doivent être biologiques, bien sûr, pas un intrant, pas de produits chimiques dans les produits, mais bien au-delà, il faut que les produits soient biodiversifiés, soient dans un contexte d'écosystème d'origine tel que la Terre l'a créé, qu'on appelle maintenant en fait, les forêts analogues, où il y a une restitution totale de ce qu'était la Terre à son origine, incluant donc tous les végétaux, des lichens, des fougères, des arbres, etc., les insectes, les oiseaux, et puis l'humain, la main de l'homme qui est là, l'humain qui connaît son environnement, là où il est, dans le monde, et ces plantes qu'ils veulent nous offrir, plantes, fruits, légumes, etc., sont des produits nobles que le monde du Nord ne connaissait pas. Donc il y a de grandes difficultés à mettre sur le marché, bien sûr, tous ces produits, parce qu'en fait, il y a une nomenclature qui n'existe pas, une réglementation qui n'est pas faite pour ça, mais les gens ont oublié que la nature sait faire, et qu'un fruit qui va contenir du magnésium est bien plus biodisponible dans l'organisme que du magnésium isolé que le corps ne reconnaît pas automatiquement. Le corps humain est toujours un totem, un ensemble complexe, et un fruit, un légume est un ensemble complexe qui a été créé par la nature, que seule la nature sait faire. Et je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un laboratoire qui puisse se vanter d'avoir, de pouvoir reconstituer de manière identique un produit qui est issu de la nature et qui a cette noblesse complète.
C'est vrai qu'on a tendance à oublier que dans le règne végétal, en fait, les plantes ont ce pouvoir de nous nourrir, de nous soigner, de nous tuer aussi. Il y a des plantes vénéneuses. Oui. Mais on a tout autour de nous. Et c'est vrai qu'on est toujours dans une chimie à vouloir isoler des molécules, à vouloir synthétiser des produits qui viennent de la nature, alors que toutes les réponses sont là. Moi, j'aimerais m'intéresser un petit peu au dialogue entre le peuple en Amérique du Sud.
Les Indiens Satere Maoé, c'est le peuple d'Indiens avec qui je travaille, mais pas que, après il y en a d'autres, mais Satere Maoé, on a...
Le rapport en fait entre les peuples indigènes et la nature, le langage qui existe, comment est-ce qu'eux arrivent à communiquer, comment est-ce qu'eux arrivent à savoir que telle et telle plante peut avoir tel et tel impact ou effet sur notre organisme?
Alors on va dire qu'à l'origine c'était certainement spontané, il y a des millénaires en fait, des milliers d'années que ces peuples autochtones vivent sur un lieu donné, donc ils se transmettent de génération en génération les savoirs sur ces plantes. Il y a des hommes de science dans ces lieux-là, des peuples autochtones, qui ne sont pas toujours bien reconnus ou qui ont fait ricaner quelquefois les sociétés occidentales. Alors ils s'appellent des chamans, en l'occurrence chez les Satere Maoé, ils s'appellent les pagès, ce sont des hommes de science qui connaissent cette nature et qui la transmettent aux populations et à leurs générations futures. Donc en fait, ils ont un lien très fort avec la nature, puisque bon, ils n'ont pas de religion comme nous dans notre société occidentale, et eux, ils vénèrent la nature, hein, ils sont animistes. Donc en fait, il y a des mythes et légendes, c'est basé aussi sur beaucoup de mythes et légendes qu'ils comptent régulièrement, voire pratiquement tous les jours, avec la nature qui parle, qui exprime des choses. Ils ont un lien très très fort avec la nature, à tel point que pour le peuple indien Satere Maoé, ils disent qu'ils sont nés de la plante Guarana, appelée par les Portugais ensuite Guarana, mais qui s'appelle à l'origine Guarana. Guara signifie la connaissance, Guarana le début ou les principes de la connaissance.
Evare evare tachin tachin.
Donc il y a une très belle légende que je ne pourrais pas raconter parce qu'elle prendrait tout le temps là, mais en fait il y a des yeux, quand on voit la photo de ce produit, c'est vraiment un œil, et ce sont il y a en fait une désobéissance d'un enfant qui finalement n'écoute pas sa mère et qui va prendre un fruit qui lui était défendu dans un jardin. Il était défendu simplement parce qu'il y avait une histoire de territoire, et pas parce qu'il n'était pas bon, parce que c'est la noix du Brésil qui est emblématique en amont de peuples Satere Maoé et d'autres peuples d'Amazonie. Il y a des recherches d'ailleurs qui sont en train de se faire sur cette plante, ce fruit qui est la noix du Brésil, la noix d'Amazonie, qui est à l'origine de tout. Donc elle est dans un jardin d'Éden, l'enfant désobéit, il prend la noix, et donc les oncles qui veulent corriger l'enfant le tuent, et donc la mère prend les deux yeux, les plante, et elle dit en plantant le premier œil, tes oncles ont voulu faire de toi un pauvre bougre, mais il n'en sera rien. De cet œil naîtra un premier homme qui s'appellera l'homme Satere Maoé, et du deuxième œil naîtra un arbre qui s'appelle le Guarana, la connaissance, le début, et qui va sauver notre communauté, puis l'humanité tout entière. Et quant au Badias, Batista Garcia, qui est le chef, un des chefs indiens que j'ai pu rencontrer, quand il fait des conférences ou des présentations, il termine la légende en ajoutant, et la prophétie est en train de se réaliser, parce qu'il voit que le monde entier s'intéresse à ce Guarana. On voit des marques, bon, je ne cite pas, de multinationales de la boisson, qui contiennent du Guarana. Il y a les grandes multinationales aussi qui ont dominé le monde avec une seule boisson, qui baissent de chiffres en ce moment, paraît-il, parce qu'il y a beaucoup de concurrence qui veulent mettre aussi du Guarana et intensifier les cultures de Guarana en monoculture. Donc le peuple Satere Maoé résiste. Et il résiste grâce au commerce équitable que nous avons initié maintenant, donc il y a plus de 20 ans. Donc en fait, c'est une anthropologue qui s'appelle Alba Figueroa, une Brésilienne qui faisait ses études à l'École des hautes études de sciences sociales à Paris, que j'ai rencontré, donc au début des années 1990, qui préparait sa thèse, hein, qui avait vécu un peu chez les Satere Maoé, qui faisait son travail de doctorat, et qui m'a présenté le peuple Satere. Elle m'a dit, je vois qu'ils sont en train de s'organiser et qu'ils ont envie de défendre leur communauté en vendant dans un commerce juste, équitable, leurs plantes qu'ils vénèrent. Donc finalement, j'ai été présentée aux Satere Maoé. Et depuis, ben, c'est un commerce équitable, c'est un partenariat qui continue, qui se développe.
Je vous coupe. On va en parler du commerce équitable du guarana, mais je veux revenir sur ces effets de mode. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une société de consommation où on voit apparaître, moi, je pense à la baie du Golgi il y a 2 ans, je pense à plusieurs produits comme ça qui ont l'air d'être miraculeux. Oui. Mais on ne se rend pas compte de ce qui se passe derrière. Quand la demande est là, il faut produire et il y a des modes de production qui sont très différents les uns des autres, oui, et qui ne respectent quelquefois pas du tout la terre, hein, qui intensifie les sols. Oui. Qui mettent des intrants pour produire et satisfaire le délire occidental de vouloir toujours plus. Le commerce équitable s'oppose un petit peu à cette logique de productivité. Donc maintenant, on va en parler. Comment est-ce qu'on développe une filière équitable ?
Alors, pour engager finalement un commerce, un partenariat avec un peuple, il faut l'écouter, ce peuple. Il faut attendre de voir ce qu'il a envie de nous proposer. Il a une grande connaissance, ce peuple, que nous n'avons pas, sur justement l'environnemental, sur ce lien à la nature. Et ensuite, il sait gérer son territoire. Nous avons tendance, dans les pays occidentaux, justement, à regarder l'effet de mode. Comme vous dites, il y a tout à coup un chercheur qui va faire une découverte à l'intérieur d'une plante. Vous avez cité le goji. C'est un très bon exemple, parce que je travaille aussi avec d'autres peuples et la Chenpa dans le Sikkim. Et un jour, ils m'ont posé la question, il y a 5 ans ou 6 ans, me disant, mais qu'est-ce que veulent tes amis, ton peuple? Ils veulent cette plante goji. Il n'y en a pas suffisamment. Il y a des monocultures intensives qui s'opèrent. Maintenant, en Chine, c'est pas très beau ce qui se... Et nous, on n'en a plus. C'est pas très beau ce qui se pratique là. Et en fait, c'est vrai que malheureusement, dans nos pays occidentaux, on voudrait tout attribuer à une plante parce que finalement, ça fait plus vendre. L'économique fait plus vendre. Alors, on voudrait attribuer au goji tout un tas de caractéristiques et de bienfaits qui sont un petit peu surfaits. C'est une surenchère, en fait, hein, de bienfaits. Au fond, le goji, c'est un très bon antioxydant. Bon, il a beaucoup de caractéristiques extrêmement intéressantes. Par contre, il y en a des milliers du même type dans le monde, à d'autres endroits. Le monde est extrêmement riche partout de plantes, fruits, légumes, racines, noyaux qui sont extrêmement intéressants. À nous d'écouter les peuples dans leur présentation, savoir après voir comment l'adapter à notre société occidentale, vérifier si on le veut, parce qu'on a une façon rationnelle de réfléchir. On va dire, dans nos pays occidentaux, on veut absolument prouver, hein, il faut que la chose soit prouvée, donc il faut faire toutes les études, les chromatographies, etc. Mais en même temps, il y a, en fait, je pense, une méconnaissance de la nature entière. C'est normal, on pourrait pas tout connaître à travers ce monde, hein, de toutes ces plantes qui sont là, qui existent. Il y a une méconnaissance, justement, de l'exhaustif. Hein. Il n'y a pas de connaissance exhaustive, hein, de la richesse de ce monde. Il reste encore beaucoup, sinon plus, de temps à passer pour essayer de tout connaître que ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a aussi un grand travail qui est un peu laissé de côté, je trouve, de connaissance déjà de notre monde, de ce qu'est notre monde et dans son environnement, de la nature, des arbres, des plantes, etc., qui permettrait de trouver des solutions, oui, au bien-être des individus, avec des bienfaits, oui, il y en a. La nature sait faire. Et au fond, tant que la nature sait faire, choisissons la nature. Donc, je pense que finalement, il y a une valorisation énorme à faire qui est essentielle. Donc, à la fois pour le bien-être, oui, des peuples du monde occidental, pour son bien-être, de choisir la nature, mais également pour les peuples d'origine qui, dans le sud, ont une énorme richesse de produits que nous ne connaissons que peu. Donc pour exemple, aussi je dirais qu'actuellement il y a une mode, une tendance sur le local, le client, le consommateur, en fait, fait confusion quelquefois. Il pense que le local, en fait, nous ne devrions plus du tout consommer des produits qui viennent de peuples autochtones, d'Amérique du Sud, par exemple, alors que nous sommes tous d'accord pour consommer local des haricots verts qu'on ne va pas faire venir du Kenya au mois de décembre parce qu'on n'en a plus. Il va falloir consommer local les produits de saison. Mais par contre, est-ce que aujourd'hui les gens sont prêts à ne plus consommer de poivre, ne plus consommer de chocolat, plus consommer de café? La pomme de terre également vient d'Amazonie, la tomate vient d'Amazonie. Si le monde occidental et les peuples qui ont la plus grande richesse économique sont bien dans l'hémisphère nord, dans le nord, les peuples que j'ai pu rencontrer qui ont la plus grande diversité environnementale et ethnique, elle est dans les pays du sud. Si demain tout le monde décidait de ne manger que local, il y aurait une scission gigantesque et on ne tiendrait plus compte des propositions de très beaux produits que nous proposent ces pays du Sud. Donc il faut absolument maintenir ce commerce équitable avec des peuples dans le Sud qui économiquement sont affaiblis et ont été affaiblis souvent par le Nord, les pays du Nord, les pays occidentaux qui ont fait marcher les économies, qui ont un peu été dominants sur les offres de produits que font le Sud.
Alors le commerce équitable, on le voit, on va faire ses courses, que ce soit dans un marché ou dans un supermarché, on trouvera des logos qui sont là pour certifier d'une charte de commerce équitable. Mais qu'est-ce que c'est que le commerce équitable? Comment le définir aujourd'hui?
Alors le commerce équitable, à notre avis, mais je pense qu'il est ainsi dans sa définition, il permet en fait à un peuple de vivre dignement, sans appauvrir sa culture, sa dignité, bien au contraire, de le valoriser à sa juste valeur et en fait permet à ce peuple d'inclure des projets de développement, des projets structurels, d'avoir en fait une récupération de leur culture, que ce soit au niveau du langage, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé. Donc il faut qu'il y ait absolument tous ces critères différenciés qui soient inclus dans le prix que nous proposons d'un produit issu du commerce équitable.
Mais comment ça marche? Parce qu'au niveau des pouvoirs d'achat, on peut en parler de la baie du Gochi, hein, on a eu cette envie d'en consommer ici, donc les prix ont flambé dans les pays producteurs qui ne pouvaient plus s'acheter un produit qui vient de chez eux. Donc est-ce que le commerce équitable prend considération de ça, de ces coûts de la vie, de ce pouvoir d'achat?
Oui, il faut absolument être extrêmement vigilant, c'est-à-dire que un prix de produit de commerce équitable doit avoir une décomposition qui est tout à fait vérifiable et qui soit claire, c'est-à-dire qu'elle doit comprendre. Nous présentons d'ailleurs un dépliant où il y a la décomposition du prix, où on sait que le cueilleur touche telle somme, mais ensuite donc il y a les frais de banque, les frais de transport, les frais de transformation dans le sud. Ensuite, on sait à combien nous on l'achète. Finalement société du Nord, et ensuite après il y a une décomposition dans le Nord de tous les intermédiaires. Donc la flambée, il faut essayer de l'éviter parce que justement les populations ne pourraient pas se permettre leur consommation vitale. Et il est essentiel d'ailleurs qu'ils gardent leur consommation, qu'ils gardent leurs produits qu'ils consomment en consommation courante et qu'ils puissent en avoir disposition les premiers. Et si je prends un exemple pour les Satere Maroué, nous avons identifié un très très bon manioc dans leur forêt qui nous avait un jour été demandé par une chaîne de magasins bio en France. Mais on s'était aperçu que la production n'était pas suffisante. Donc nous avons préféré ne pas en fait répondre aux détaillants ou à la chaîne de magasins bio tant que la production n'a pas été organisée sur place, organisée en replantation, en biodiversification, en tenant compte de leur écosystème sur place.
Donc là, il n'est pas du tout question de monoculture ou d'intensif?
Voilà, pas du tout, du tout. Il n'y aurait pas de monoculture, jamais. Il y a certains systèmes de certification qui ont accepté la monoculture. Nous, finalement, nous considérons qu'il y a danger, il y a épuisement des sols. Donc la population locale ne peut plus avoir des productions, d'autres produits qu'ils ont dans cette diversité de cultures qu'ils ont autour de chez eux. On a vu aussi le quinoa qui a été, il y a quelques années, très inquiété. Le quinoa, à la fois, a fait l'objet de certifications pourtant de commerce équitable, de certification également biologique par d'autres systèmes de certification. Je pense qu'il faut absolument aller bien au-delà qu'une seule, un seul critère, l'économique pour le commerce équitable ou simplement pas d'intrants pour les produits bio. il faut absolument anticiper sur justement les besoins premiers des individus, ne pas pousser en fait les producteurs loin de leur lieu d'origine, de leur culture, pour organiser des monocultures parce que ça va donner de l'économique. Faisons attention à ça. L'économique ne doit pas cacher en fait justement les notions essentielles de vie, de survie, de développement de population.
Mais je vais mettre dans la peau d'un enfant, voilà. Maman Claudie, j'ai 6 ans. Explique-moi ce que c'est que le commerce équitable pour un enfant.
Alors, le commerce équitable, je pourrais répondre à cet enfant que c'est respecter les individus, tous individus qui vivent dans ce monde, les peuples qui ont la connaissance de la nature. Le commerce équitable, ça doit absolument inclure l'humain dans son environnement, avec ce respect de l'environnement, qui inclut toutes les espèces qui sont là, végétales. Alors, pour un enfant, on va lui dire les arbres, les champignons, les fougères, l'herbe. Et puis, il y a les papillons qui sont là aussi. Il y a tous les insectes, même les araignées, etc., sont importants dans un écosystème. Même le serpent qui vient, il participe à l'équilibre de la nature. Et ça, en fait, il faut absolument éveiller très tôt les enfants à ça. Finalement, cette notion d'entité globale, d'écosystème complet, qui contiennent l'humain, les insectes, les oiseaux, l'eau, l'arbre, les feuilles, etc., etc.
J'aime bien résumer ça dans une phrase qui dit que finalement, on n'est pas dépendant, on n'est pas indépendant, mais on est tous interdépendants. Et tout ce qui se passe à un endroit peut avoir des répercussions dans un autre.
Exactement, oui. On est interdépendants. Et c'est là la dangerosité, c'est qu'il y a dans cette interdépendance des peuples qui ont souhaité des fois dominer d'autres peuples. Et c'est ça, je pense, qui est en fait une catastrophe du monde entier, depuis la nuit des temps, en fait, on va dire, depuis que l'homme existe. Quand il y a un humain quelque part, et puis d'autres humains qui arrivent, il y a quelquefois des prises de position qui ne sont pas complémentaires, alors qu'elles devraient être toutes complémentaires. Il y a dans ce monde suffisamment de possibilités de nourriture pour tout le monde, puisque finalement, que cherche l'humain au départ ? C'est de dormir, manger ce qu'il a envie de manger autour de lui, choisir sa nature, et l'humain est complémentaire à un autre humain. Il faut surtout pas qu'il y ait un humain qui veuille marcher sur la tête d'un autre humain. À quoi ça sert? Quel est l'aboutissement de sa volonté? Dominer pourquoi?
Mais ça me renvoie au système éducatif finalement, parce qu'à l'école on apprend la compétitivité, pas la complémentarité.
Et oui, le système éducatif, donc il est également peut-être à accompagner avec d'autres notions. Je pense, moi je suis assez positive, hein, j'ai de l'espoir, finalement malgré tout ce à quoi je me suis confrontée, parce que je me suis confrontée, je vais dire, à peut-être des lobbies. Il faut combattre justement ces prises de puissance par ces gens qui voudraient nous nourrir avec des inventions qui sont liées uniquement justement à des désirs économiques de puissance, de domination. Il faut absolument se fédérer tous. À partir du moment où nous avons des volontés éthiques, on doit se fédérer, on doit prendre position et essayer de faire entendre cette belle voix qui est la voix de l'humain dans sa nature, de la nature, et faire attention aux dominations de toutes ces grandes multinationales ou de Monsanto, effectivement.
On parlait aussi à un moment donné de ces populations qui essaient de prendre le pouvoir sur d'autres. On peut dire que nous, à titre individuel, on a un pouvoir qui est le pouvoir d'achat. Et on peut en conscience, hein, tout en étant responsable, choisir les produits qu'on va acheter, la démarche qu'on va cautionner derrière. Donc peut-être agir plus en conscience aujourd'hui, c'est quelque chose que chacun peut faire en réfléchissant à où est-ce que je vais mettre mon argent. Donc le commerce équitable est un des moyens de dépenser son argent tout en prenant en considération cet aspect global de l'homme et de l'univers, de respect des peuples, de respect des cultures et de respect de l'environnement qui nous nourrit au quotidien.
Exactement, Alexandre. Le consommateur a un rôle essentiel dans ses choix. Nous l'avons souligné à la plateforme du commerce équitable. Nous organisons donc tous les ans une quinzaine du commerce équitable. Donc il y a 2 ans, c'était le thème principal, c'était vous, le consommateur, vous êtes essentiel, vous avez en fait votre part énorme à exprimer en faisant votre acte d'achat. Si on prend en fait des exemples de consommateurs, quelquefois ils parlent des produits chers. C'est tout à fait relatif, le cher. Je pense que le cher est quelque chose, maintenant que nous entendons dans la langue des gens, oui c'est vrai, il y a des produits qui sont peut-être plus chers parce qu'il y a des grandes sociétés qui démultiplient des profits.
Donc il vaut mieux parler de prix juste.
Voilà, donc c'est, je voulais en venir là, c'est bien Alexandre, vous m'avez devancé, vous voyez. Donc c'est un prix juste que nous proposons. Et quand les gens évoquent quelquefois le cher, j'ai entendu dernièrement les dernières études qui sont faites sur la consommation. Consommation alimentaire représenterait maintenant 13% seulement du budget d'une famille, alors que la téléphonie représente 26%. Avons-nous besoin de 26% de téléphone? Il faut se poser des questions, le consommateur doit se poser des questions. Il a un rôle essentiel, politique, extrêmement important dans son acte d'achat. Il faut qu'il achète juste. Quelquefois, au sortir de grandes distributions, on voit des caddies pleins. Moi, souvent, je regarde dans les caddies, je ne vais pas dans la grande distribution, je suis perdue déjà, je trouve qu'il y a trop d'offres qui sont inutiles, je n'en ai pas besoin de tout ça. Et pourtant, je vis bien, j'ai l'impression de bien vivre dans ma vie parce que je mange bien simplement mes légumes, les choses que je dois consommer. Et au sortir de la grande distribution, il y a des caddies pleins d'inutiles, plein de choses inutiles. Les gens se laissent séduire, justement. Alors attention, on va encore dire aux consommateurs, attention de ne pas se laisser séduire par de l'inutile, simplement parce qu'il flash un peu plus, parce qu'il va y avoir un développement merchandising, marketing sur ces produits qui va être brillant. Et les gens utilisent d'ailleurs les enfants, et moi je trouve ça vraiment dommage, utilisent les enfants qui se laissent rapidement séduire, et donc il y a de la publicité qui est faite pour séduire les enfants qui sont les déclencheurs, on le sait, des actes d'achat des parents, des familles, etc. Donc le consommateur, il doit être sensibilisé le plus largement possible sur sa responsabilité, et il doit être fier justement d'avoir une responsabilité. Le juste prix, quand il est expliqué avec une décomposition de prix que dans le commerce équitable, nous devons de présenter au consommateur une décomposition de prix de son prix qu'il engage dans un produit, c'est un engagement où il sait qu'il a tel montant qui va aller à telle destination et qui permet de construire la terre, de respecter l'homme, de respecter sa nourriture et son organisation communautaire.
Aujourd'hui, on est sur le salon Vivre Autrement. Alors la question, ça va être ma dernière, est-ce que Vivre Autrement, c'est possible ?
Ah oui, vivre autrement, c'est possible. J'en ai l'espoir. Je trouve que dernièrement, il y a beaucoup de sensibilisation qui a été faite, et de ce fait, le consommateur commence à y répondre. Ce qu'il faudrait, en fait, c'est que nous puissions vivre autrement que la course vers l'inutile, la course vers ce qui n'est pas essentiel, et surtout avec un très grand respect humain, plus grand respect humain qu'on a perdu, il faut le dire, les traditions se sont perdues, c'est bien dommage dans nos contrées occidentales. Moi je vois encore ces vies communautaires dans les pubs, dans les pays que je visite, en Amérique du Sud principalement. J'aurais voulu quand même essayer de sensibiliser les gens, le consommateur, sur des enjeux internationaux que subissent en ce moment les peuples amazoniens, les peuples autochtones. Il y a des constructions de barrages partout en Amazonie qui sont en train de déséquilibrer la forêt amazonienne, donc les populations locales, donc leur lieu d'origine. Ce sont d'autres enjeux à combattre, et en ce moment est annoncé sur le Rio Tapajós, qui est non loin de la indigène Sateré-Maoé, des grands barrages, EDF, GDF organisent tout ça. C'est bien dommage, et j'aurais voulu sensibiliser tous les consommateurs à nous rejoindre sur l'association Écologie des Origines pour essayer d'accompagner le peuple Satere-Maoué et obtenir leur respect de territoire comme ils l'ont demandé et comme la constitution brésilienne de 1988 l'avait prévu. Merci Alexandre.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.